Je ne vais pas parler que des femmes, mais montrer comment, effectivement, après cette étape de renouvellement, donc de problématiques à travers la construction d'une théorie, ce que Christian Pocillo a fait, d'une théorie de la distribution sociale des pratiques sportives, la deuxième étape de renouvellement fut la prise en compte de la dimension sexuée des pratiques, donc de ces mêmes pratiques sportives. Donc il vient de le dire, il a été réalisé à un moment donné que cet espace était un espace masculin, on va dire plutôt une théorie androcentrée, pour utiliser un vocabulaire plus adéquat. Et donc il fallait prendre certainement d'autres dimensions explicatives, d'autres logiques explicatives, parce que la question n'est pas tellement où sont les femmes, c'est alors que des sports sont réglementairement ouverts, elles peuvent faire du football, de la boxe, de la lutte, etc., ou du rugby. Pourquoi les sports, la distribution des sports reste-t-elle sexuée? Alors, bien sûr, de manière quantitative. Bon, il y a celles qu'on appelle, que les historiens appellent les héroïnes symboliques, mais qui ne sont que symboliques, justement. Alors, cette interrogation, donc, sur les conditions d'accès des femmes et leur participation aux pratiques et institutions sportives apparaît, justement, dans les années 70, à la fin des années 70. Et je voudrais dire quelques mots sur les conditions de possibilité qui étaient réunies pour que ces questionnements soient possibles. Alors d'abord, il a fallu se défaire de deux lectures qui étaient dominantes, deux thèses opposées sur la participation des femmes au sport, lecture extrêmement idéologique, la première étant que le sport est émancipateur pour les femmes. Des travaux ont voulu montrer cette émancipation historique du sport pour les femmes. Et deuxième thèse ou deuxième théorie développée, le sport est aliénant pour les femmes, ou serait aliénant, puisque, étant un espace masculin, elles y abandonneraient, en quelque sorte, elles y aliéneraient leur identité, leur féminité. Donc, ce sont des thèses, d'ailleurs, qui se développent généralement dans la sociologie du sport et qui, en quelque sorte, se sont constituées, là aussi, en obstacle. Mais ces voies d'analyse étaient impuissantes à rendre compte des inégalités et des différences qui marquent l'accès des femmes aux pratiques sportives, tant au plan historique que contemporain. D'abord parce qu'il fallait rendre compte de l'inégale présence des femmes selon leur propriété sociale, leur propriété d'existence. Dans les travaux qui s'intéressent à ces questions sur le genre, j'en dirai un mot, la femme ou les femmes est une catégorie très générale, très utilisée, sociologiquement impertinente. Les femmes n'est pas une catégorie unifiée socialement. Ensuite, il fallait rendre compte de leur inégale présence dans les sports, donc dans la diversité des pratiques sportives. Autre condition de possibilité, la conjoncture des années 70, cette conjoncture sociopolitique de mouvements féministes, MLF 70, et de travaux de sciences sociales qui s'en sont suivis, c'est-à-dire qu'à ce moment, de nombreuses historiennes, sociologues du travail, la sociologie de l'éducation, ont entrepris, comme le dit Michel Perrault, une grande historienne, donc des travaux un peu réparateurs sur ces oubliés et ES de l'histoire. Alors en France, aux États-Unis aussi, avec les Women Studies qui se sont développées, puis ensuite donc dans des départements de recherche que nous n'avons toujours pas en France, donc on a quand même quelques décennies de retard, puis les Gender Studies, c'est-à-dire qui est traduit en France par genre, une traduction extrêmement insatisfaisante dans la mesure où gender signifie la dimension sociale et culturelle des assignations de sexe, donc pour s'opposer à la dimension biologique et anatomique du sexe, mais qui comprend aussi l'idée de la relation entre les sexes avec le masculin comme principe dominant, ce que les anthropologues ont bien montré. Donc, on a aussi eu des évolutions dans nos questionnements et nos objets de recherche sur femmes sport, comme dans les autres champs, c'est-à-dire qu'on a d'abord travaillé sur les femmes et le féminin, dans une perspective un peu réparatrice, il faut bien le dire, puis sur les relations entre les sexes. C'est-à-dire qu'on est assez d'accord que pour comprendre le féminin, les femmes, etc., il faut travailler aussi sur le masculin, la masculinité, et sur les relations et les rapports entre les deux sexes. Et d'ailleurs, c'est une question que tout le monde aujourd'hui, cette question de la différence et des rapports sociaux de sexe, donc, considère comme centrale. Troisième condition de possibilité, être une femme. On dit que le chercheur, tout à l'heure, est un agent socialement situé. Oui, il a aussi une appartenance de sexe. C'est-à-dire de l'effet de l'appartenance du sexe du chercheur, et ça ne concerne pas que les sociologues et les historiens, bien sûr, sur ce qui peut faire question et problème de recherche. C'est une question que je ne suis évidemment pas la seule ni la première à poser, et cette question est directement liée à l'accès des femmes aux postes d'enseignants-chercheurs. Là encore, une historienne des femmes, toujours Michèle Perrot, a bien souligné que cet accès était très tardif. Nous sommes parmi les professeurs des universités 15%, parmi les maîtres de conférences toutes disciplines confondues à peu près un tiers, c'est dire si nous sommes, l'ensemble des femmes, sous-représentées dans l'ensemble des chercheurs. Et donc, le fait que des femmes puissent engager des travaux de recherche dans des cadres institués a été donné comme une rupture épistémologique, justement par une historienne, Yvonne Kniebiller, travaillant sur les femmes, pour travailler, par exemple, sur l'histoire. On sait, par exemple, dans les manuels scolaires, que l'histoire de France est une histoire des vainqueurs, des guerres, etc. Quand on a parlé du suffrage universel pendant un siècle, il était universel pour les hommes. Bon, tout un ensemble de travaux a été fait, puisqu'en France, c'est 1945 pour les femmes. Bref, je sors du sujet. En tout cas, rupture par rapport au fait que les objets, les démarches scientifiques ne sont pas neutres. Et je voudrais souligner ici, parce que ça peut être quelque chose sur quoi on se rencontre, sur la persistance du rapport qu'entretiennent les filles avec les sciences, qui est devenu un problème politique, comme on le sait, sur donc le recrutement des filles dans les filières scientifiques, malgré les politiques volontaristes, incitatives, etc. Et dans notre champ, le sport, Christian Pociello a dit tout à l'heure que c'était un champ masculin, il est historiquement masculin, bien évidemment, c'est-à-dire que la prise en compte de la dimension sexuée dans le monde des STAPS et de la recherche est très tardive. Bon, on est une discipline jeune, il l'a dit, mais même au plan physiologique, anatomique, biomécanique, on parle de l'individu, du mouvement, de l'adolescence, de la psychologie de l'enfant, de l'élève, comme s'il n'avait pas de sexe, comme si c'était équivalent, les garçons et les filles. Évidemment que ça n'est pas la même chose. Donc, le sport, historiquement, est masculin. Et c'est un monde, c'est même une école de la construction de la virilité, on pourrait en reparler. Donc le sport a résisté à l'investigation des sciences sociales, à toutes les problématiques de différenciation, et évidemment sociale, a fortiori, concernant donc l'approche des sexes. Alors l'autre condition de possibilité, c'était évidemment le fait que cette théorie ait pu être faite. Et donc, on savait que les pratiques corporelles, les usages sociaux du corps depuis le début des années 70, à travers les travaux de Luc Boltanski, étaient sexuellement différenciés. On savait aussi que l'histoire des femmes, c'est d'abord l'histoire de leur corps, la sexualité, la maternité, les violences, le travail. Bon, la question du corps traverse de façon très importante l'histoire des femmes. Et puis, le sport implique fondamentalement les corps. Donc, si les corps sont engagés, pas de neutralisation possible de l'effet du sexe. Les corps sont sexués et c'est, j'allais dire, incontournable, bien qu'on oublie encore une fois de le penser en termes de recherche. Alors, tout ça a produit évidemment des questionnements, des apports de connaissances qui ont suivi. On peut montrer, par exemple, que les sports sont sexués, je vais très vite, comme le sont les métiers. C'est-à-dire pour avec des explications de mes ordres sur les caractéristiques des métiers, de ce qu'ils sollicitent, et les caractéristiques des sports masculins, la force, les aspects scientifiques, techniques, technologiques, la manipulation des engins lourds, la motorisation, les grands espaces. Eh bien, dans les métiers, c'est la même chose. On peut montrer aussi que, évidemment, la place des hommes et des femmes dans les pratiques sportives est liée à leur place dans les cultures, voire l'Arabie Saoudite, voire l'Algérie, les pays du Moyen-Orient, pas de sport possible pour les femmes, ou alors habillées, tchador, voile, etc., interdiction des pratiques. Bon, on voit aussi que ces travaux ont amené un questionnement très intéressant des catégories de c'est quoi la masculinité, c'est quoi la féminité. C'est une question qui a été particulièrement importante sur, par exemple, sur le test de féminité, où les sportives ont été soumises durant tout un temps à un test de féminité génétique, XXXY. Or, la féminité, la catégorie sexe féminin, pose la question du sexe génétique, du sexe apparent, du sexe donc social, et donc il n'y a pas forcément de superposition entre ces différentes dimensions d'identité sexuée. Donc on a un peu compliqué, personnellement j'aime bien, on a introduit du désordre je veux dire, ces questionnements ont introduit du désordre, non seulement dans l'ordre social des sexes, mais dans l'ordre de la pensée de certaines catégorisations. Les catégories de sport, les catégories sexuées, ça commence où, ça finit où, la féminité, la masculinité, etc. Donc il y a là un renouvellement, et du coup, on a d'autant pu montrer que le sport, historiquement, avait été une école de la virilité. Les écrits de Coubertin, du coup, maintenant, quand on les relit, on les lit autrement. Bon, voilà. Et je vais très, très vite. Oui, il y a quand même une dernière question aussi intéressante soulevée. C'est le fait qu'on travaille sur la biologisation ou la naturalisation du social dans le sport. La question du sexe faible, des femmes incapables, inférieures, etc., a été historiquement utilisée pour leur interdire donc l'accès aux pratiques sportives. Et c'est là où on a véritablement une biologisation du social. C'est pas parce qu'elles vont être mères qu'elles sont moins fortes ou qu'elles sont moins capables. Ça a quand même soutenu une idéologie eugéniste, par exemple, hein, à la fin du XIXe siècle et à d'autres moments. Donc, ce n'est pas totalement anecdotique la relation masculin-féminin, homme-femme, dans les pratiques sportives. Voilà. Bon, dans les sources de renouvellement, je dirais que ces travaux ont aussi permis un rapprochement avec les chercheuses et les chercheurs travaillant donc ailleurs, rapprochement institutionnel avec ceux qui travaillent dans le champ de l'éducation, du travail, de l'histoire des femmes. Et ça, c'est particulièrement fécond, évidemment, de voir que ça procède des mêmes choses, hein, comme dans le travail domestique. Voilà, tout cela dans un champ qui demeure résistant, c'est-à-dire nous sommes, celles qui travaillent sur ces problématiques, nous nous comptons presque sur les doigts, un peu plus d'une main, mais enfin guère plus, c'est-à-dire que les STAPS, le sport est tellement donné comme universel, rassembleur, doté de vertus, et il a une charge idéologique qui est un obstacle épistémologique extrêmement persistant. Je ne parle pas des questions méthodologiques que ça pose, de travailler sur les femmes, quand les données statistiques, par exemple, ne sont pas sexuées, tout simplement. Merci.